Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Je vais vous présenter un livre enthousiasmant, écrit par un médecin revellois, qui parle de ses émotions dans son travail, des émotions de ses patients, de l'équipe médicale qui l'accompagne. C'est un éloge du travail en équipe. Il donne envie d'apprendre à travailler en équipe. Et pas question de hiérarchie dans ce livre. Un beau témoignage qui fait envie. Bonjour docteur Garcia. Je voudrais vous présenter à nos amis auditeurs. Qui êtes-vous ? Parce qu'en fait, moi je vous connais un peu, j'ai lu votre livre, mais qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Je sais que vous êtes de Revel. Êtes-vous vraiment de Revel ? Dites-nous quel âge vous avez, qui êtes-vous ? Voilà, présentez-vous.
Bonjour, je suis de Revel. Je suis même natif de Revel. Et c'est une ville où je suis revenu pratiquer la médecine pendant une quinzaine d'années. Et actuellement, je suis habitant à Revel, élu à la mairie, et je pratique mon métier de médecin à l'hôpital de Castres. En tant qu'urgentiste, d'une part, et d'autre part, de médecin ostéopathe dans un cabinet libéral au sein de l'hôpital.
D'accord, ça c'est une fiche résumée de ce que vous faites. Donc je précise que vous vous sentez revellois, on le sent dans le livre. Vous êtes revellois et dans le livre, on sent votre attachement à Revel et à cette région qui est d'ailleurs magnifique pour nos amis auditeurs qui nous écoutent de loin de Toulouse et du Lauragais. Et on a l'impression en lisant votre livre que vous voulez rester dans cette région absolument, que c'est là votre terreau pour y travailler. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est...
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois que je suis attaché à Revel parce que j'y ai vécu et parce que j'y ai vécu de belles choses et que je continue à y vivre de belles choses. Mais je pense que le cadre de mon livre et le cadre de ma vie pourrait dépasser le cadre de Revel et j'aurais pu, je pense, avoir la même vie à d'autres endroits. En tout cas, y vivre les mêmes choses et participer à l'élaboration d'une vie collective à d'autres endroits.
Oui, j'en suis persuadé, oui. Vous auriez eu des émotions similaires dans une autre région de France, mais il se trouve que c'est votre région.
Et... Tout à fait, c'est ma région. C'est vrai que il y a une forme de reconnaissance aussi vis-à-vis de tout ce que la ville m'a apporté, les gens qui m'ont construit. Et je pense que c'est une chance de pouvoir apporter de son côté... aux gens et au milieu et au terroir qui vous a apporté, qui vous a construit. Voilà, c'est une chance pour moi de pouvoir amener ce que je suis et amener la richesse de ce que je suis, peut-être, qui est en partie due aux personnes de ce terroir, de pouvoir l'amener moi-même maintenant... sur mon territoire.
C'est ce qui m'a frappé dans ce livre, que j'ai lu plusieurs fois tellement il m'a plu, c'est votre reconnaissance. Reconnaissance à ce pays, à ces gens que vous soignez, à cet amour que vous leur donnez, mais à cet amour que vous recevez d'eux. C'est ça qui m'a frappé. Habituellement, les médecins ne parlent pas de tout ce qu'ils reçoivent, et vous, dans ce livre, vous parlez de ce que vous recevez, de vos patients... Et des gens qui travaillent avec vous aussi, vous rendez hommage tout le temps, soit aux médecins, soit aux aides-soignantes, soit aux infirmières, tout le monde. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement humain. Avant d'être médecin, je vous ai senti extrêmement humain.
J'ai toujours pensé que c'était un honneur pour un médecin, pour un soignant en tout cas, de soigner une personne. Voilà. Et j'ai vu l'évolution de la médecine depuis quelques années où il y a une difficulté d'accès aux soins du fait de multiples problématiques. Et finalement, les choses sont un petit peu transformées où actuellement, il devient presque un honneur d'être soigné. Et où on est, en tant que patient, on a une difficulté à trouver une personne qui vous soigne, et donc on est honoré du fait d'être soigné. Moi, j'ai été éduqué par des parents qui ont soigné énormément, puisque mes parents étaient kinésithérapeutes, et où ils étaient honorés d'avoir la confiance des personnes. Et je suis resté dans cet aspect des choses où avoir la confiance d'une personne qui vient en état de maladie, vous confier sa santé, ses soucis, ben c'est un honneur pour celui qui a à les prendre en charge.
C'est formidable d'entendre ça, c'est formidable ce que vous dites, parce que je pense que ça n'est pas le raisonnement de... Enfin, il y a beaucoup de gens, quand ils vont chez le médecin, ils ne pensent pas qu'ils font un cadeau presque au médecin d'être entre ses mains, parce qu'en réalité, dans le livre, vous rendez toujours hommage à ce malade qui est en face de vous, parce que vous dites « j'apprends de lui, nous partageons ». C'est oui. Formidable, ça donne envie d'être malade, non. Ça réconcilie avec la maladie en pensant qu'il y a des médecins comme vous.
La confiance est un cadeau, dans les deux sens. Avoir un patient qui vous fait confiance, c'est un cadeau qu'il vous fait. Et quand on est médecin, avoir un patient en qui on peut avoir confiance dans le fait... qui va d'une part écouter ce qu'on lui dit de faire, qui va d'autre part accepter que peut-être l'évolution ne va pas être celle qu'on avait prévue, qui va accepter de vous tenir au courant des difficultés. C'est une richesse d'avoir confiance dans son patient. Et...
Merci de dire ça. Merci, c'est un cadeau que vous nous faites.
Je le pense, je le dis souvent aux patients, je vous laisse sortir ou je vous laisse faire la surveillance à la maison parce que j'ai confiance en vous. Je crois que ça, c'est une grande richesse. Et par ailleurs, j'ai
vous
une conception de la médecine qui est à responsabilité partagée. Et si vous avez une responsabilité partagée, vous avez une confiance partagée. Souvent, les gens vous disent « c'est vous le médecin ?» Mais moi, je réponds « c'est vous le patient ?»
C'est formidable d'entendre ça, je le confirme, je trouve ça formidable que vous nous renvoyez à quelque chose de plus grand. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à tatiner chez le médecin et que le médecin lui dise finalement « prenez-vous en main aussi, je ne peux pas tout faire » puisque c'est ce que j'entends, c'est ce que je traduis au-delà des mots que vous venez d'employer. C'est la responsabilité de chacun, le médecin et le patient. Le médecin ne peut pas tout, le patient ne peut pas tout, vous faites équipe. En réalité, c'est ce qu'on voit dans le livre, vous faites toujours équipe, et avec le malade, et avec, le personnel soignant.
Bah, d'où le titre de mon livre, c'est finalement, en disant « Soigner est une danse », puisque c'est le titre de mon livre, je ne l'ai pas encore cité,
on va y arriver.
C'est ce que je voulais dire, c'est que finalement, on se met au rythme de chacun, Chaque consultation, chaque rencontre est une danse différente, un rythme différent.
Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté le titre du livre qui s'appelle « Soigner est une danse ». C'est un petit livre qui fait 130 pages. C'est tellement loin de... Quand j'ai lu le livre, je me demandais qu'est-ce que j'allais trouver. Et vous expliquez « Soigner est une danse », c'est être au diapason de la personne qui est en face. Mais c'est à travers tout le livre que nous voyons ça, que vous devez vous adapter votre pas à la personne qui est en face de vous.
Oui, c'est adapter son pas à la personne qui est en face de nous. Et c'est l'amener aussi petit à petit dans le bon tempo, pour se soigner. Donc c'est aller dans son tempo pour parfois le ramener vers le meilleur tempo, vous voyez. C'est-à-dire...
Mais c'est formidable d'entendre ça. Soigner est une danse. Si vous voulez, le malade qui arrive, il se dit... Le médecin, il me dit que c'est une danse qu'il va faire avec moi, mais c'est réjouissant. Si vous voulez, c'est enlever une part de la maladie, déjà. Moi, je le vois comme ça.
Oui.
Tiens, mon médecin, je vais dire maintenant aux gens qui sont malades et qui vont vous voir, je leur dis, vous savez, moi, j'ai rencontré un médecin... Quelque part, il fait un pas de danse avec vous. Donc, il enlève un peu de cette de cette chose triste qu'est la maladie, il a envie de vous accompagner comme dans un pas de danse. C'est poétique, c'est...
C'est poétique, c'est pas... C'est peut-être pas aussi jovial que la façon dont vous le décrivez.
Moi, je l'ai senti comme ça, oui, en lisant le livre.
C'est-à-dire
voilà.
Que pour amener les personnes vers le soin, vers la qualité du soin, ben, il faut aller à sa vitesse et tenir compte de sa culture, de la façon dont il est, de la façon dont il perçoit les choses, de son intelligence sociale, de son intelligence historique, quoi, de la façon dont
de qui il est vraiment,
voilà, de la façon dont il s'est construit et de la façon dont il aborde aussi cette maladie. Bon, bien sûr, c'est un peu idéaliste, un peu idyllique de raconter les choses comme ça, mais ça correspond à une certaine réalité où, pour la même pathologie, on ne va pas utiliser la même méthode, la même approche, parce qu'on va s'adapter à son patient. Sans faire de démagogie non plus, on doit amener les gens à se soigner, mais au rythme et par le cheminement qui doit être le sien.
Alors, chers amis auditeurs, je vais commencer par le premier chapitre qui s'appelle « C'est pas mon problème ». Et alors là, je suis très surprise parce que le docteur Garcia prend la défense d'une gêne interne qui s'est fait rabrouer par un spécialiste. Et alors, docteur Garcia, donc, après le livre est très différent, mais le premier chapitre, la première page, c'est un cri de votre part contre ce qui se passe à l'hôpital. Racontez-moi.
Ouais. C'est l'origine de mon livre. C'est grâce à cet épisode douloureux que j'ai pu écrire.
Que vous avez trouvé le temps d'écrire, parce que vous avez un emploi du temps
terrible. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu 9 minutes pour écrire le premier chapitre.
Ah bon ?
Voilà.
Vous allez vous donner le truc.
Voilà, que j'ai laissé sur la table de la cuisine. Et finalement, ma femme m'a dit... Tu devrais écrire des choses comme ça parce que tu as bien décrit ce qui s'est passé.
C'est très bien décrit, je le confirme. C'est
et
très
donc, à partir de là, j'ai écrit tous les jours un chapitre. Voilà.
D'accord.
En fait, effectivement, ça a été pour moi une violence dans les propos que je n'ai plus pu supporter.
Donc vous prenez la défense de cette jeune interne qui a été rabrouée par un spécialiste et qui s'est mise à pleurer.
Oui.
Chers amis auditeurs, c'est en 10 lignes, hein, c'est d'une précision et d'une concision, c'est formidable. On voit tout de suite qui est ce qui se passe. Et le médecin prend la défense de cette jeune interne en disant « Du mieux que la société nous a laissé, soigner cette jeune interne, ça lui fait plaisir et ça lui fait peur ». Donc, il montre les deux facettes. Elle rêvait d'apprendre et elle apprend désormais à soigner sans les moyens, sans le temps, sans les mots. Voilà ce que dit le docteur Garcia. Alors là, vous prenez position déjà. Vous prenez position. C'est le premier chapitre qui est très particulier, mais déjà, ce sont des émotions puisque vous défendez cette jeune femme et visiblement, vous êtes outré. Mais en même temps, vous décrivez l'état de l'hôpital où on vous parlait du manque de temps.
Oui. Et puis, peut-être dire la conclusion de ce chapitre, qui est « Considérons les larmes des internes et la douleur des démons, et nous serons considérés pour ce que nous sommes. »
Oui, oui.
Alors, je suis extrêmement surpris d'avoir réussi à écrire ça. Donc, j'ai écrit ces mots dans un état second. Et je suis ému moi-même de pouvoir avoir dit ça. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation professionnelle qui est très difficile, sans moyens, sans le temps qu'il faut pour parler aux patients, sans le temps qu'il faut pour faire équipe. Mais pour autant, gardons la sensibilité qu'il faut pour percevoir la fragilité des êtres humains et nous resterons considérés pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des soignants. On avait, à ce moment-là, j'ai écrit en 2 ou 3 ans ce livre, l'impression que la société avait oublié ce qu'étaient les soignants, que les directions hospitalières ne savent plus ce que sont les soignants. Et entre nous, les soignants, il faut que nous restions sensibles, sensibles à la fragilité humaine, finalement, pour rester considérés pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des soignants.
Cette fragilité de l'être humain, dans les 130 pages, je la ressens. À travers votre écriture, je me dis, ce Jérôme Garcia, la fragilité de l'être humain, il est habité par cette fragilité. Et donc, il soigne ses patients, ou ses malades, je ne sais pas comment il faut dire, il soigne ses patients avec cette connaissance. Ce n'est pas un robot qu'il soigne, ce n'est pas en tant que robot, c'est un être humain qui fait attention à l'être humain. Tout le livre, chers amis auditeurs, ça n'est que ça. C'est pour ça que ce livre est si touchant et si émouvant. Alors,
merci pour cette présentation, mais n'oublions pas qu'à de nombreux endroits, je rappelle qu'on n'est pas toujours dans ce niveau de perfection.
Et oui, que malheureusement...
Moi le premier et...
Oui, mais vous faites amende honorable, justement, quand voilà, vous ne pouvez pas
nous
être...
Nous portons nous-mêmes, en tant que soignants, cette fragilité et cette imperfection, et toutes ces fois où... On aurait aimé être différent.
Et oui, mais justement, vous le reconnaissez. Vous dites là, j'ai peut-être été que dans le fait et pas assez dans l'être. J'ai peut-être été un peu trop vite. Mais vous avez le temps, alors que vous êtes un homme hyper pressé et chargé de travail, de le reconnaître. Donc, c'est déjà énorme, la reconnaissance de ce qu'on voudrait être. En fait, on dirait que vous avez envie de faire mieux. Voilà. C'est à travers votre livre, on a l'impression que vous voulez toujours faire mieux que ce que vous ne faites. Déjà, vous dénoncez, vous remarquez ce qui est, vous traitez bien vos malades, vous faites équipe avec vos patients, avec vos soignants, ce qui est... Je n'ai senti aucune hiérarchie, alors qu'on parle tout le temps de la hiérarchie au sein des hôpitaux. Je n'ai pas senti du tout de hiérarchie avec les soignants, les aides-soignants. Nous allons voir dans un chapitre un soignant qui donne à manger à une vieille dame qui est aux soins intensifs. C'est absolument magnifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je voulais parler d'autre chose, mais oui. Il y a un soignant qui donne à manger à une vieille dame qui est aux soins intensifs. Donc ça, voilà. Ça nous parle.
Et j'ai vu cette scène à travers un hublot, parce que les portes de l'hôpital ont un hublot
pour pouvoir surveiller un petit peu.
Pour permettre de surveiller. Et j'ai vu la scène. Et j'ai vu ce grand aide-soignant donner à manger à cette toute petite dame. Et je me suis demandé pendant plusieurs jours... pourquoi on l'appelait un aide-soignant, en fait. Voilà. Et c'est à partir de cette émission que j'ai perçue que j'ai écrit ce chapitre, où en me demandant si on ne pourrait pas l'appeler plutôt un aide-soigné.
Oui. Alors moi, j'ai trouvé ça très, très joli, parce que cette dame, visiblement, n'a plus de force, et le soignant est un beau garçon solide, et cette dame, elle est sans force. Et cet aide-soignant, il l'appelle madame, et la dame, elle l'appelle monsieur. Elle ouvre grand la bouche parce qu'elle est en confiance avec cet aide-soignant. Et c'est encore un échange d'amour entre cet aide-soignant et cette malade. Et ça fait du bien d'entendre ça, parce que nous avons tous des membres de notre famille ou des amis qui ont été à l'hôpital, aux soins intensifs. Et on est content de savoir que ça peut se passer aussi comme ça, qu'il y a de l'amour, qui est peut-être... l'essentiel pour guérir.
Ouais. Et puis moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est la vie de cet aide-soignant qui pourrait avoir une autre vie, parce que se lever le matin pour aller donner à manger à une dame âgée, c'est peut-être pas le rêve de toute vie, quoi. Et c'est un gars qui pourrait faire mille autres choses, qui pourrait... À ce moment de la journée, avoir des choses à vivre peut-être plus qui paraîtraient plus trépidantes, mais lui, il met toute son énergie pour ce moment, et c'est ça que j'ai voulu saisir, parce que
ce moment d'amour entre avec un grand
A. C'est une forme de don de soi qui est une grande richesse et qu'il faut savoir savourer, parce que on s'habitue, en fait, on s'habitue au rituel des vies de chacun, quoi, et finalement Il y a quelque chose de merveilleux dans quelque chose qui est très rituel, très habituel.
Qui est très simple.
Et très simple, voilà.
Oui, mais en fait, vous rappelez qu'il y a un sens. C'est ça, c'est qu'on voit le sens. Moi, j'ai trouvé que ce garçon, là, cet aide-soignant, que j'ai imaginé en moto, en motard, un garçon de 40 ans solide en face de cette dame toute ratatinée, en fait, il est à l'essentiel. Il se donne et il reçoit. Puisque la dame, elle fait un grand sourire quand elle mange avec lui. Et en fait, il est dans l'essentiel, ce garçon. Il est dans l'essentiel. C'est pas de courir partout le monde qui est important. C'est d'être à ce qu'on fait. Il est dans le sens. C'est un mot qui est tellement à la mode maintenant. Donner du sens. Il n'a pas perdu le sens, finalement.
Oui. Voilà. Dans ce chapitre, je cherchais le nom qu'on pourrait lui donner. Et voilà, j'ai trouvé merveilleux que finalement la dame a trouvé le nom toute seule puisqu'elle appelait monsieur.
Oui, il s'appelle Madame et Monsieur qui était dit avec noblesse.
Voilà.
Qui était dit avec noblesse. Alors, chers amis auditeurs, avant d'écouter la musique qui a inspiré aussi le docteur Garcia quand il a écrit, je voudrais vous parler du chapitre 2 qui s'appelle Polystyrène. Alors, Polystyrène, c'est un petit retour en arrière quand le docteur Garcia est à l'école, petit, bon élève sûrement, et où la maîtresse fait faire une petite montagne en polystyrène avec des skieurs qui descendent. Et le docteur Garcia, qui est déjà très observateur et un enfant attentif, quand il fait descendre son petit skieur de la montagne en polystyrène qui doit faire 40 cm, quand son skieur arrive au bas de la montagne, il fait remonter son skieur un petit peu et il explique à la maîtresse que le skieur, dans la force de l'énergie de la descente, il peut remonter un peu. Donc il contre la maîtresse et en disant le contraire de ce que dit la maîtresse, donc déjà c'est un enfant audacieux de contrer la maîtresse alors qu'il a 10 ou 11 ans ou peut-être moins de 10 ans.
Non, j'étais en moyenne section.
Oui, donc c'est un petit garçon. Donc déjà c'est un enfant très réfléchi et vous verrez dans le livre que finalement cette pente qu'on descend et qu'on remonte, après il y pense quand il est avec ses malades. Et ça c'est magnifique parce qu'en réalité on descend mais on peut remonter. Et là je ferai un parallèle avec Cyrulnik qui a vécu des choses épouvantables mais qui finalement a toujours remonté la pente. Et donc là vous me faites penser aussi à Cyrulnik, jeune docteur Garcia. Nous allons écouter la musique qui a permis au docteur de se concentrer quand il écrivait.
Within your heart, you know it's plain to see, like Adam was to Eve, you were made for me. You say the poison vine breeds a fine wine, our love is easy. If you ask me plainly, I would gladly say I'd like to have you round just for them rainy days. I like the touch of your hand, the way you make no demands. Our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. Physically speaking, we were made to last. Examine all the pieces of our recent past. is your mouth a taste? Your hands around my waist, our love is easy. Every time we meet, it's like the first we kissed. Never growing tired of this endlessness. It's a simple thing. We don't need a ring, our love is easy.
Parole d'auteur. Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs, nous venons d'entendre Mélodie Gardot, Our Love is Easy, donc qui est une musique qui a inspiré aussi le docteur, mais en même temps c'est quand même son métier qui l'a surtout inspiré. Alors, je reviens un tout petit peu au chapitre 2, parce que en réalité vous parlez des EHPAD, quand vous dites « ça sentait le temps foutu ». Les humains qui n'ont plus rien à faire, qu'à rêver, enfin débarrassés des sollicitations diverses du jour. J'étais, dans ces deux petits paragraphes, j'étais très émue par ce que vous disiez, parce que vous êtes médecin, et est-ce que c'est une prise de conscience, c'est page 17, est-ce que c'est une prise de conscience que vous voulez donner aux gens qui abandonnent leurs parents dans des EHPAD, ou est-ce que c'est très émouvant ce que vous écrivez? Débarrassés de tout, sauf d'eux-mêmes, ces gens qui sont dans les EHPAD. Vous ne marquez pas le mot d'EHPAD, mais pourquoi vous avez écrit ça? Vous êtes bouleversé et bouleversant quand vous écrivez cette page.
Alors, comme beaucoup de choses que j'ai écrites, j'ai écrit dans un état un peu second, un peu hypnotique.
Je le pense,
et
oui.
Et grâce notamment à Mélodie Gardot, donc je mettais cette musique qu'on vient d'écouter, et je pouvais écrire assez librement. Donc, ouais, c'est un cri du cœur sur le sens de la vie et sur le sens de ses vies. Là, j'ai écrit un petit peu plus loin. Je parcourais cette maison de retraite sans vraiment trouver la sortie,
oui.
Ni le sens du circuit, ni le sens de ses vies.
Oui.
Je parcourais ce silence en silence.
C'est très profond, ça, ce paragraphe.
Je suis moi-même un peu ému d'avoir écrit ça et surpris. Et en même temps, ça fait tout à fait écho à ce que je pense. C'est vrai, quand on rentre dans ces maisons de retraite et qu'on voit toutes ces personnes qui ont tant vécu, qui ont su faire tant de choses, qui ont souffert, qui ont aimé, qui ont construit la vie et qui sont là.
Et qui nous ont construit aussi.
Qui nous ont construit, qui ont eu mille idées au cours de leur vie et qui aujourd'hui, bien souvent, n'en ont pas, ou en tout cas, on n'a pas accès aux idées qu'elles ont. Ça pose question, voilà. Je donne pas forcément de réponse, hein, mais, parce que je n'en ai pas plus que les autres, mais.
C'est une prise de conscience quand même.
Ça pose question, oui. Voilà.
Ça pose question, et donc quand vous lirez, chers amis auditeurs, Soigner est une danse, vous ne pourrez pas ne pas être touché par ces deux paragraphes qui disent l'essentiel et peut-être qui vous empêcheront de mettre quelqu'un que vous aimez dans une EHPAD ou que vous permettront d'aller voir quelqu'un dans une EHPAD pour pas la laisser abandonner, parce que c'est terrible, ces EHPAD. C'est vraiment... D'ailleurs, je vais faire un petit parallèle en dehors du livre.
C'est terrible, mais il y a aussi une grande richesse du soin. Hein. Là, j'ai pris... En disant ces phrases que nous venons de lire, j'ai parlé des vies de ces personnes, mais il y a aussi tous ces gens qui y travaillent et qui donnent probablement du sens à ces vies et qui donnent aussi un sens à leur vie. Mais c'est aussi une prise de conscience qu'on doit avoir tous, d'imaginer une personne qui se lève le matin pour aller travailler en EHPAD. C'est quelque chose de la fois très difficile, qui est riche de sens si on y donne du sens. Et je pense que nous tous, la société, devons à chaque instant aider à ce que tout cela ait du sens. Et donc, Je ne suis pas jugeant envers les personnes qui y travaillent, envers l'organisation. La société a trouvé ce moyen de prendre en charge les personnes âgées, mais quand on le ramène à l'individu, ça me pose question à laquelle j'aimerais donner d'autres réponses. Voilà.
En fait, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu dans le journal, dans La Croix, je crois, ou dans un autre journal, parce que je lis beaucoup la presse, où le pape, maintenant, a créé une journée des grands-parents. C'est la troisième année que l'on fête la journée des grands-parents, qui s'est fêtée fin juillet ou début août, parce que, justement, il s'est aperçu qu'il y avait trop de grands-parents abandonnés. Et donc, c'est pas pour rien que l'Église met maintenant aussi son doigt là-dessus. Voilà, c'est une petite parenthèse. Maintenant, ça existe. La journée des grands-parents est reconnue au sein de l'Église. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi sur les réalités des gens qui nous entourent. Peut-être un voisin que nous pouvons aller voir, ou un oncle, une tante, un père, une mère. Enfin, bon, parce que les EHPAD sont quand même bien pleins. Alors, je vais maintenant passer... au petit papier bleu, le chapitre 5. C'est terrible ce que vous écrivez. En fait, vous êtes confronté à la mort. Là, je vous vois un jeune médecin qui a quand même 25 ans de médecine, un jeune père de famille, adjoint au maire de Revel, qui fait beaucoup de choses, qui est urgentiste à l'hôpital de Castres. Mais vous êtes aussi confronté à la mort. Et en réalité, c'est pas neutre ce que vous racontez. Pas du tout. Et quand vous refilez le bébé à l'interne, excusez-moi, j'aimerais que vous nous en parliez. Je ne pensais pas que c'était si dur de remplir ces papiers bleus. Vous allez nous expliquer, chers amis auditeurs, parce que là, c'est
bleu,
un peu...
Le papier bleu, donc c'est le formulaire qu'on remplit en cas de décès. Donc c'est une fonction des médecins de la société de reconnaître qu'une personne... constater qu'une personne est décédée. Et il y a une forme de tradition dans les hôpitaux où, considérant que dans cette situation, il n'y a plus rien à faire, il y a peu de risque de se tromper, bien, on envoie souvent l'interne constater les décès. Et en fait, j'ai eu à l'occasion d'un décès particulier, l'occasion de me rendre compte que finalement c'était un acte qui était quand même chargé de poids et qui n'était pas si anodin que ça. Et à l'occasion d'un décès, ça m'a fait me remémorer que finalement nous constatons souvent la mort et que c'est une particularité dans notre métier d'être confronté à ce moment précis. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a frappé dans ce moment précis, c'est aussi la réaction des gens qui sont tout autour. Et donc on est confronté à diverses émotions qui sont essentielles des individus qui sont autour. Et c'est ces émotions-là que
vous décrivez si bien,
que je crois que j'ai réussi à capter
que vous décrivez si bien et qui sont si émouvantes, puisqu'on a parfois la larme à l'œil en lisant le livre. En trois mots, vous avez dit l'essentiel.
Allez-y.
À un moment, vous parlez donc d'une aide-soignante ou d'une infirmière qui vous demande de faire le papier bleu pour son papa, et vous ne pouvez pas refuser. Alors vous commencez par écrire que c'est la tuile. Mais après, vous dites que ça n'est pas du tout la tuile, que c'est un cadeau qu'elle vous a fait. Vous êtes émouvant en disant que vous trouviez... elle a voulu que ce soit moi qui signe, moi qui sers, j'étais à ma place à côté d'elle. Et quand vous dites j'étais à ma place, ça veut tout dire. Vous lui avez fait ce cadeau parce qu'elle avait confiance en vous. Vous n'étiez pas... quelqu'un d'anonyme. Vous avez...
C'est-à-dire que dans ces moments qui sont finalement la mort d'un être cher est un moment essentiel de la vie qui est marqué par une perception émotionnelle très forte pour les familles. Et donc ce qui se joue dans ces moments-là est au-delà du raisonnement, de ce qui peut se réfléchir, de ce qui peut s'intellectualiser, ce qui se perçoit, ce qui se vit, c'est une richesse émotionnelle. Et,
Mais personne ne le dit, ça, c'est vous qui le dites. C'est pour ça que c'est beau.
C'est ce que j'ai constaté ce jour-là, puisque on m'a demandé, j'aimerais que ce soit,
que ce soit toi
qui aille constater le décès. Et alors qu'on a l'impression que c'est un acte tout à fait anodin, qui n'a pas un grand intérêt. Et finalement, quand on le ramène à la richesse de la rencontre entre individus, c'est un acte très important et magnifique. Et c'est ce qui fait quand même aussi la richesse ensuite de toutes les relations qu'on peut garder quand on a pratiqué la médecine générale ou quand on pratique la médecine de premier recours, je dirais. On était là au moment de la mort et...
Mais vous le dites dans une petite phrase.
C'est un lien qui est éternel, quoi.
Vous dites une phrase qui est toute simple, mais vraiment les mots ne peuvent plus simples. Vous écrivez. On venait de vivre un décès. Ensemble. Un papier bleu, un mort, son père. Et vous écrivez encore. Un papier bleu, ça remet un peu tout à sa place. Les vivants, les bras, les illusions et moi. Donc c'est de l'humilité, de la tendresse à l'égard de cette jeune aide-soignante ou infirmière, je ne sais pas parce que ça n'est pas précisé, d'ailleurs peu importe. Ouais. Mais finalement, ce lien que vous avez eu avec cette femme...
La mort remet les choses à sa place, quoi. Et oui. Y compris les relations humaines, voilà.
Oui, on sent cette relation que maintenant, avec cette femme, ça n'est plus... C'est différent maintenant avec cette femme. On le sent à travers ces quelques lignes qui ne peut plus simple. Maintenant, je pense que cette femme, vous avez un lien particulier. C'est exactement ce que vous disiez, mais moi, je l'ai senti. Vous avez, avant de le lire, avant de vous entendre, je l'ai compris dans le livre. C'est toujours très émouvant. C'est pour ça que ce livre, il faut le dire. Soigner est une danse. Ça vous réconciliera avec la maladie, les médecins, le corps hospitalier. C'est vraiment... Faites-le lire à vos médecins aussi, ça leur donnera des idées. Soigner est une danse du docteur Garcia. Je vais maintenant arriver au chapitre 6, dans une cuisine. Alors là, c'est terrible, parce que il y a une dame qui a une litanie de choses à raconter qu'elle a marquées sur une petite enveloppe. Et il semblerait que vous sachiez faire la synthèse entre la première ligne et la dernière, qui en réalité sont un peu décousus. Donc c'est quand même très émouvant. Et là, vous faites encore un aveu de sincérité, puisque ce livre n'est que sincérité. Le poids sur la poitrine d'avoir fait plutôt que d'avoir été. Parce que ce livre n'est pas qu'un livre de faits, c'est un livre de réflexion, c'est un livre de philosophie, c'est un livre de poésie. Moi, je trouve déjà extraordinaire qu'un médecin fasse. Mais vous, vous regrettez quand vous n'avez pas été. En plus d'être acteur, vous voulez être encore plus humain. C'est ça qui est émouvant dans ce livre. Pourquoi est-ce que vous vous accusez dans ce chapitre?
On ne s'accuse pas.
Vous accusez un petit peu.
Oui.
Moi, quand vous dites le poids sur la poitrine d'avoir fait plutôt que d'avoir été, c'est Jérôme Garcia qui l'écrit, c'est pas moi. Oui. Je ne l'ai pas inventé. Et d'ailleurs, attendez, chers amis auditeurs, j'ai encore une phrase à vous lire que j'ai trouvée magnifique. Servir fait grandir et mal servir nous ratatine. Ça peut résumer le docteur Garcia et toute sa philosophie dans le livre. Servir fait grandir. Parce que c'est ce qu'il aime, le docteur Garcia. Et mal servir nous ratatine. Ça vous donne l'état d'esprit de ce livre et de ce médecin.
Oui. En fait, ce chapitre, c'est l'histoire d'un de mes jeunes collègues qui me racontait que, en rentrant chez lui, il avait pleuré.
Oui, oui.
Et voilà. D'une petite anecdote, j'ai mené une réflexion. En fait, ce qui nous fait pleurer.
Ça vous a ému, cette phrase de ce collègue.
Mais finalement, ce qui nous fait pleurer, c'est pas tellement les malheurs qu'on voit, c'est pas tellement d'accompagner les choses dramatiques de la vie. C'est plutôt d'avoir pas été tout à fait à la hauteur de ce qu'on aurait voulu être au moment où on doit accompagner des situations, voilà. Et c'est ce que j'ai voulu d'écrire et puis montrer aussi peut-être aux gens qui liront ce livre ou qui l'ont lu que parfois on sait qu'on ne fait pas exactement ce qu'il faut et qu'on n'est pas exactement comme on voudrait. Et c'est une souffrance pour ceux qui le subissent, mais c'est une souffrance pour nous aussi. Voilà. Donc c'est peut-être aussi une souffrance partagée. Et...
mais cette humanité vous honore.
Oui, puis, mais ceux qui le lisent, ceux qui un jour ont été mal soignés, on a tous été mal soignés, un peu expédiés, un peu mal pris en charge, ça nous arrive à tous. Il faut savoir que c'est un sentiment qui est partagé aussi.
Oui, ça je ne le savais pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une nouveauté de savoir que le médecin peut avoir ses états d'âme par rapport à son travail. On nous dit toujours que le médecin est débordé, qu'il n'y a pas assez d'effectifs dans les hôpitaux. Et de savoir que vous avez le temps, en plus de votre travail, d'avoir une émotion concernant ce que vous avez fait, pour moi, c'est vraiment une découverte. Et je pense que ça le sera aussi pour nos amis lecteurs qui liront « Soigner est une danse ». Je voudrais maintenant passer, puisqu'il ne nous reste plus que 10 minutes, docteur Garcia, sur votre facette numéro 2, vous êtes docteur, donc, mais vous êtes aussi ostéopathe. Et le chapitre 21, c'est l'histoire d'un... Je crois bien que c'est le chapitre 21, oui. C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne dort pas et qui vient avec ses parents. Et alors là, que faites-vous, docteur Garcia? Parce que vous êtes médecin et ostéopathe, et je préciserai, ostéopathe de père en fils, parce que oui. Je crois que votre père était ostéopathe.
Oui.
Que se passe-t-il dans ce chapitre 21?
Ça pose d'abord une première question de ce qui est du faire et être. Est-ce qu'on est médecin ou est-ce qu'on fait de la médecine? Ou est-ce qu'on est ostéopathe ou est-ce qu'on fait de l'ostéopathie? Et moi, je crois que j'ai la chance d'être médecin à plusieurs moments de ma vie, et je crois que j'ai la chance d'être ostéopathe effectivement presque de naissance, puisque j'ai toujours eu une attirance pour ce métier, peut-être quelques capacités naturelles pour le pratiquer, et puis la chance d'avoir un maître d'apprentissage en la matière de mon père avec qui j'ai énormément travaillé et qui a façonné aussi probablement ma façon d'appréhender cela. Donc je pense que je suis ostéopathe autant que je suis médecin, voilà. Et donc
alors l'histoire de ce petit garçon qui vient avec ses parents est amusante.
Ce petit garçon, c'est un petit garçon qui dormait pas, donc on peut faire de l'ostéopathie crânienne, qui est une façon d'approcher le corps, la mécanique du corps, et qui nécessite donc de fermer les yeux et de se concentrer sur des sensations très fines pendant plusieurs minutes, ce qui fait que la plupart des gens ont l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Et là, les gens ont probablement l'impression que je faisais des formes de
magie,
de prière
noire,
ou
de magie.
D'incantation. Et donc, ils sont revenus me voir avec... ils sont revenus me voir avec une photo d'un autre enfant qui était leur neveu, qui était en Alsace, afin que je puisse faire dormir cet enfant à distance. Voilà.
Alors, je précise pour les jeunes parents qui nous écoutent que l'ostéopathie pour les enfants qui ne dorment pas, c'est très efficace, et qu'on peut toucher délicatement le crâne sans lui faire mal, puisqu'en réalité, l'ostéopathie est très douce.
Tout à fait, c'est une méthode très douce, sans danger, quand elle est bien pratiquée, bien sûr, et qui sur des critères assez précis, permet de régler des problèmes un peu fonctionnels, c'est-à-dire des problèmes de fonction quand il n'y a pas de véritable maladie dessous, et, mais qui reste difficile à expliquer. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, au-delà de l'amusement du fait que les gens pensent qu'on guérit par photo,
que vous êtes magnétiseur,
voilà, j'explique quand même que effectivement j'ai un peu soigné sans les mots, et j'ai pas expliqué ce que j'ai fait.
Vous étiez concentré sur l'enfant.
Oui, et puis j'ai été un peu négligent probablement dans la façon d'expliquer ce que j'avais fait.
Non, ne vous accusez pas, vous avez fait votre métier, puisque le petit garçon dort après.
Tout à fait.
Et les parents aussi.
Le petit garçon dort tellement bien qu'ils veulent faire dormir toute la famille.
Oui.
Et voilà, ce moment partagé avec l'enfant Finalement, elle n'a pas besoin d'être expliqué aux parents.
Non, il n'a pas besoin. On n'a pas besoin de tout savoir. Non, voilà. On vient voir le médecin, il n'a pas besoin de tout nous expliquer. Voilà. Sinon...
Mais et surtout, le lien qui se fait avec l'enfant, au-delà des mots, là, pour le coup, est d'une grande richesse aussi. Et finalement, ça se passe entre nous, entre le petit et moi. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui demandent après à revenir voir le monsieur qui masse la tête. Et voilà, c'est une histoire entre le crâne de l'enfant, l'enfant et moi.
Et vous. Alors, petite question, parce que l'ostéopathie crânienne, ça existe depuis longtemps ?
Ça existe depuis les années 50. Ou...
Ah, d'accord, c'est très ancien aussi, parce qu'on en parle moins souvent.
Oh, ça a été développé quand même par un gars qui s'appelait Magoun, et puis développé en France par Brooks, qui d'ailleurs a été un des profs de mon père, et puis années 70, toute une génération de Français qui a développé ça.
Bon, alors voilà, là c'est de l'information, chers amis auditeurs, parce que moi je ne connaissais pas l'ostéopathie crânienne, et donc je découvre, et c'est toujours utile d'écouter Radio Présente et d'écouter un jeune médecin qui écrit « Soigner est une danse ». Je voudrais conclure, alors qu'on ne peut jamais conclure un livre où il y a tant de poésie, de réflexion et de reconnaissance de la part du docteur envers tout ce qu'il vit, finalement. C'est pour ça que son livre est beau. Et je ferai quand même, moi, en tant qu'amoureuse de la lecture, un petit parallèle avec Christian Bobin quand il écrit des phrases courtes et pleines de poésie. Donc, pour vous inciter à lire ce livre, je voudrais passer au chapitre 24. Que j'ai trouvé très émouvant. Alors, le chapitre 24, sur ce que vous faites, ce que vous aimez, page 99. Alors, vous dites, c'est très émouvant, « J'ai choisi ces études pour être au cœur du monde. Je ne savais pas que le monde était si grand, mais en réalité, vous restez dans l'Auragais et dans le Tarn. Et je trouve ça magnifique, ce que vous racontez. Je voudrais que vous nous en parliez, parce que je trouve que votre métier...